요리는 마음을 비치는 거울이야.
RPH déroule le tapis rouge à la 61e rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Francis Fourcoux, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'accepter de passer quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays d'Hérault. Vous êtes présent à Pézenas actuellement, puisque vous êtes invité par la 61e édition de la rencontre cinéma de cette ville. En quelques mots, Francis Fourcoux, c'est qui ?
Alors, comment me définir d'abord par mes origines on va dire géographique. Mes origines, je suis né à Toulouse d'une famille qui, pour partie catalane, du pied du Canigou, du petit village d'Eus. On dit toujours que c'est le plus beau village de France, je ne sais pas. Et pour partie, du côté de ma mère, l'Aude. Et donc c'est la conjonction de ces deux familles qui se réunissent qui fait que je nais à Toulouse. Et après des études, je fais des études scientifiques, j'ai passé le concours de Louis Lumière, et puis voilà, me voilà retrouvé dans une école de cinéma où je suis sorti technicien. Donc j'ai beaucoup exercé au début de ma carrière comme technicien, que ce soit assistant caméra, caméra, directeur photo, j'ai commencé à éclairer des films, et puis assistant réalisateur, j'ai été assistant réalisateur de pas mal de metteurs en scène, entre autres Jean Fléché, metteur en scène voilà, qui était de Provence, qui a enraciné vraiment un cinéma en Provence. Et puis aussi un metteur en scène anglais qui s'appelle Peter Watkins, connu pour un film qui s'appelle La Bombe ou Punishment Park. Et là, je l'ai assisté sur un film de très longue haleine, puisque nous avons travaillé 2 ans sur un projet qui s'appelait Le Voyage, tout autour du monde, un film autour des questions de paix, qui préoccupait ce réalisateur depuis toujours. J'ai beaucoup appris avec lui, et puis après 10 ans passés à Paris et puis ailleurs, j'ai décidé de rentrer à Toulouse, aidé en cela que le Centre National de la Cinématographie m'avait confié une mission de créer un centre de formation, adossé à un centre de production qui était une décentralisation du cinéma. Et donc tout ça m'a amené à créer par la suite voilà, une société de production cinématographique, distribution, qui s'appelle Écran Sud. Voilà. Et donc depuis 1985, cette société fonctionne, produit depuis 1989, beaucoup d'émissions pour la télévision, mais aussi 6 longs-métrages de cinéma et une 15aine de longs-métrages distribués dans les salles du cinéma espagnol, Almodovar, le premier Almodovar en France, mais aussi Jean Baronnet, aussi Youssef Chahine, pour un très beau film qu'il avait fait avec Dalida, qui s'appelait Le Sixième Jour.
Très, très beau film.
Et donc, j'ai distribué ce film, attiré par voilà, les cinémas du Sud. Hein. Moi, c'était un peu la marque de fabrique à Toulouse. On pouvait communiquer avec les Espagnols, donc j'ai pris aussi du cinéma catalan, j'ai distribué un film qui s'appelle La Chambre des Poupées, un film de Jaime Chavarri, qui était l'adaptation d'une grande fresque qui se passait à Majorque. Donc voilà un peu ce que j'ai fait, et donc le film que je présente demain, Un port au-dessus de l'océan, est mon 6e long-métrage. J'ai fait auparavant donc un premier film en 97, qui est sorti en 97, qui s'appelle La Vallée des Montreurs d'Ours, qui raconte l'immigration, on va dire, au 19e siècle, des Ariégeois qui partaient poussés par la misère sur les routes du monde avec un ours et qui sont allés jusqu'en Amérique. Et donc, à la fois, le film décrit le système pastoral dans lequel ces gens-là étaient nés, finalement, et comment ils en étaient venus, poussés par les conditions de paupérisation des populations paysannes avec la maladie de la pomme de terre au milieu du 19e siècle, à aller jusqu'en Amérique. Et j'ai même rencontré leurs descendants en Amérique, à New York. Donc ça, c'était mon premier long métrage, qui me suit d'ailleurs toujours. C'est incroyable, ce film est diffusé régulièrement. Et puis après, j'ai enchaîné avec un film sur les salles de cinéma. J'aime la vie, je fais du vélo, je vais au cinéma que je présentais entre autres dans la région, Montpellier, à Perpignan, que sais-je. Et puis, après, je me suis attaqué à un sujet assez grave, les camps. Alors, les camps au travers de l'existence d'un organisme qui venait de naître, qui s'appelait la CIMAD. Et donc, en 1942, au moment des grandes rafles, une femme, Laurette Monet, arrive au camp du Ressé-Bédou, à côté de Toulouse, et va se trouver confrontée aux grandes rafles. C'était un docu-fiction qui, en même temps, permettait d'avoir les témoignages de toutes les populations, et particulièrement les femmes, qui étaient internées dans ces camps. Et c'était un peu un hommage à la résistance civile des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je dirais que c'était le premier volet d'un diptyque, puisque si on pouvait dire que Lorette 42 était le film des parents, j'ai fait aussi le film des enfants. Le film s'appelle La boîte aux lettres du cimetière. C'est une marche de la poésie de Toulouse à Collioure jusqu'à la tombe du poète Machado, qui d'ailleurs ces jours-ci, le 22 février, on va souligner ce 22 février-là, le fait qu'il est là depuis le 22 février 1939, puisque trois semaines après son passage de la frontière, le grand poète est décédé à Collioure et sa tombe est toujours là, et au bord de sa tombe, une boîte aux lettres d'où du monde entier des gens écrivent.
À propos du film Un pont au-dessus de l'océan, que vous présentez dans le cadre de la rencontre au cinéma de Pézenas, on retrouve ce pont que vous avez construit entre l'Occitanie et les États-Unis. Vous aviez déjà un peu envisagé avec la vallée du Montreur d'Ours, puisque vous disiez que c'était des Ariégeois qui étaient partis.
Oui, une autre forme de relation à l'Amérique. Je crois que l'Amérique, il y a la forte relation qu'on oublie toujours entre nous, Européens, et l'Amérique. C'est cette relation liée à cette violence qui a donné lieu au génocide des peuples amérindiens d'Amérique, ou le travail forcé auquel ils ont été soumis en Amérique latine, mais en tout cas, et pour partie génocide, mais le grand génocide de 23 millions d'Amérindiens en Amérique du Nord, qui est lié à la façon dont nous avons exporté notre violence liée aux questions de religion, que ce soit les croisades, comment nous avons porté le fer et le feu dans d'autres pays que les nôtres, et aussi dans nos propres pays, puisque nous avons vécu ici en Languedoc une croisade, la croisade contre les Albigeois en 1209, qui est un signe d'une violence extrême. L'historien Zuhl-Dembourg disait, imaginez deux siècles d'occupation nazie, c'est ça, parce que l'Inquisition est venue poursuivre le travail de la croisade. Donc cette violence européenne, la guerre de 30 ans, les guerres mondiales, tous ces conflits que nous avons nourris au fur et à mesure des années entre la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, les pays de l'Europe centrale, voilà, qui se sont inclinés devant les nationalismes au XIXe siècle, eh bien cette violence, elle a produit ce qu'elle a produit en Amérique. Et l'histoire violente de l'Amérique, ce pays de sang, comme dit Paul Auster, ce qu'elle produit aujourd'hui est le résultat de l'exportation de notre violence et de nos nationalismes. Je crois que c'est ça. Et alors cette fascination que nous avons envers Hollywood aujourd'hui, on voit très bien que c'est la façon dont ce cinéma hollywoodien aujourd'hui résout ses histoires, c'est souvent par la violence. La violence est une partie vraiment très forte de ce cinéma-là. Ce cinéma qui nous fascine, parce que cette violence nous fascine, même si nous la réprouvons, bien sûr. Et ça explique beaucoup, je crois, le succès de ce cinéma-là. Il est une affirmation d'une force et d'une puissance. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes de paix dans le monde, je crois.
Dans ce film, c'est deux femmes qui parlent de la menace qui plane sur leur culture et sur leur langue.
Oui, bien sûr, parce que nous sommes dans un monde où il y a 7000 langues qui sont parlées. On sait très bien qu'il y a des situations, voilà, on va dire, de langues qui prennent commercialement le dessus sur d'autres. Les langues impériales, on va dire. Bon, il n'y en a pas 50. Bon, En son temps, le français en a été une. L'anglais, l'espagnol, le portugais, le russe, le chinois. On sait bien qu'il y a quelques langues comme ça. Mais il y a, sur les 7000 langues parlées sur la planète, 4800 langues autochtones. Ces 4800 langues autochtones, elles sont parlées par 6% de la population, soit sur les 8 milliards de la planète à peu près, on est à 480 millions de gens qui parlent 4800 langues. Alors on va dire, bon, évidemment tout ça n'est pas important, 6%. Mais ce qui est important de dire, c'est que ces 6% de la population qui parlent ces langues autochtones, ils sont sur une portion du territoire de la planète qui représente 80% de la biodiversité. Donc aujourd'hui, la question des langues, elle dépasse complètement la question des cultures et des langues. Elle est aussi le signe, malheureusement, de l'abandon de la planète entre les mains, voilà, de la pollution, de la destruction, des forces de destruction. Et je crois que ça, c'est notre devoir. Nous devons léguer à nos enfants une planète qui soit en état de fonctionner et pas en état de dysfonctionner comme c'est le cas aujourd'hui. Et les langues en font partie. Si on écoute ce que disent les spécialistes de l'UNESCO par rapport à ces langues autochtones, ils disent qu'en 2100, la plupart des langues autochtones auront disparu. Ben, c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut se lutter. C'est pour ça que moi, je voulais faire un film combatif sur cette question, tout en faisant un film pacifique, parce que c'est ça le sens du pont. C'est-à-dire que deux cultures peuvent dialoguer, toutes distantes qu'elles sont. La fraternité, elles n'ont pas besoin de frontières pour s'exprimer. Ce film-là est un occitan. D'accord. Un occitan, un anglais, un osage. Et il y a un peu de français. Mais je pensais, bien sûr, que c'était très important que ce film, pour être cohérent, il soit un occitan. Donc, la moitié du film est un occitan, l'autre moitié, un osage et un anglais.
J'ai vu en consultant des documents pour préparer cet entretien que vous aviez formulé le souhait d'enraciner une production cinématographique et audiovisuelle en Midi-Pyrénées. Il vous semblait qu'il pouvait y avoir un manque et du travail à faire.
Alors là, on parle de Midi-Pyrénées qui était une notion un peu, je ne sais pas, la région Occitanie nous parle davantage parce que quasiment c'est le Languedoc. Bon,
Bon,
j'aurais bien aimé qu'on y mette pays catalan, Occitanie et pays catalan. Je crois que ce serait plus juste, mais bon. En tout cas, oui, je pense que il y a dans cette grande région, on ne peut pas parler de pays. L'Occitanie n'a jamais été un pays, n'a jamais été une nation avec des frontières, etc. On peut l'étendre, bien entendu, à la région Nouvelle-Aquitaine, à la Provence. C'est une langue qui prend de multiples formes dans ces régions. Et qui a de grands écrivains, Bernard Mancier. Alors ici dans l'Hérault, comment ne pas parler de Max Rouquette, peut-être le très très grand écrivain. Moi je suis fasciné par l'œuvre de Max Rouquette.
L'oublier, ça serait vexer beaucoup de...
Et il n'est pas le seul. Malheureusement, nous avons perdu il y a quelque temps donc Roland Pécou qui a écrit ses livres de voyage en langue occitane, remarquable, qui était quelqu'un de remarquable. Bon, on a Jean Boudou, on a Bernard Mancier, je l'ai déjà dit, on a des Alem Sur. On a au service de cette langue, non seulement un grand passé littéraire avec les troubadours, qui reste fondamentalement une des grandes marques de la culture de l'Occitanie, mais il y a aussi ces écrivains contemporains qui sont des inspirateurs d'un univers... toujours un peu à la marge, toujours un peu, voilà, des personnages qui se fondent dans le cosmos, en quelque sorte, comme chez Max Rouquette, où vraiment il y a, je dirais, un sens du sacré qui peut-être nous manque aujourd'hui dans notre relation au monde. Si on avait une relation plus forte au sacré, peut-être qu'on ne détruirait pas notre planète comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est... Comment penser que c'est simplement en mangeant et en dormant qu'on peut vivre ? On ne peut vivre que quand on a des relations sociales, que quand la culture qui nous imprègne, que l'environnement qui est autour de nous exprime, hein, voilà, des différences, des qualités tout à fait qui font justement, je crois, de la France quelque chose, voilà, qui est plaisant. Quand vous arrivez en Bretagne, vous sentez un vent différent, vous sentez un pays différent. Quand vous arrivez en Vendée ou en Alsace, dans le Limousin ou dans le Nord, voilà, ce qui fait la, justement, je trouve, la qualité de ce pays, c'est ces différences. Et qu'est-ce qu'on fait ? Que fait malheureusement la République depuis très longtemps ? Moi, je me sens complètement républicain, mais je réprouve la façon dont la République essaye d'asservir tout à une seule voilà, pratique culturelle, à une seule voix, une seule langue, une seule expression. Au contraire, c'est dans nos différences que naissent nos richesses.
Sans ces différences, c'est faire le lit à l'ennui aussi.
Oui, l'ennui, parce que Giono le disait déjà dans Un roi sans divertissement, l'ennui conduit au meurtre.
À la violence.
Eh oui.
Francis Fourcou, merci beaucoup d'avoir accepté de passer ces quelques instants dans notre compagnie. Merci, bonne soirée à vous.
Merci à vous.